Les manettes à la baguette sur RCN, Yoann Turpin.
Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de nos aventures musicales au travers des jeux vidéo, des films et des séries. Aujourd'hui, nous allons nous balader dans un des plus beaux décors qui puisse être, si proche de nous et pourtant qui nécessite encore toute notre attention pour ne pas disparaître. Un lieu presque commun et qui fait sporadiquement la une à chaque fois que la température monte. Un espace enchanteur, plein d'histoires, de mythes et de légendes. Aujourd'hui, on se met au vert car on va parler des forêts. Pour une fois, cette émission me donnera l'occasion de faire entendre quelques classiques d'époque. Il est vrai que, habituellement, pour les manettes à la baguette, je vous sélectionne les meilleurs extraits, souvent orchestraux, des bandes originales dont je vous parle. Cependant, concernant le jeu vidéo, il fut une époque, comme je le raconte souvent, où la place dans les cartouches était limitée afin de faire entendre de la musique. Et c'était souvent aux joueurs de faire de la suppléance mentale afin de se plonger totalement dans l'expérience de jeu ou le gameplay, comme le disent nos amis anglo-saxons. Or, ce soir, je vais vous faire entendre quelques originaux, car après tout, vous et nous sommes prêts à faire quelques écoutes critiques, c'est-à-dire d'époque, si on veut parler de ce que furent les plus grandes légendes musicales du jeu vidéo. Commençons donc avec un jeu où la forêt prend une place prépondérante. The Legend of Zelda Ocarina of Time, ou la légende de Zelda l'Ocarina du Temps, sorti en 98. Cet opus prendra une place toute particulière dans le cœur des joueurs, car ce sera la toute première apparition en 3D d'un héros qu'ils connaissent fort bien, Link. Si l'intrigue entière du jeu s'articule sur le voyage dans le temps au sein d'un univers relativement restreint, le royaume d'Hyrule, quelle ne fut pas la surprise des joueurs du monde entier en voyant Link, dès les premières minutes de jeu, se réveiller au sein d'un village perdu en forêt, celui des Kokiri. Dans ce lieu clos et relativement protégé des événements à venir, il s'y forgera du courage. Plus tard, il revient en forêt, devenu les bois perdus, où quiconque y pénètre s'y perd, afin de trouver l'entrée du temple de la forêt, probablement un des donjons les plus à part de ce Zelda. Cet opus d'ailleurs, puisqu'il était le premier en 3D tourné sur la Nintendo 64. La place mémoire étant limitée, il fallait faire des choix en matière de programmation. Chacun étant le plus pertinent possible, on peut souligner une réalisation vraiment soignée pour l'époque. Et ce temple de la forêt, vous l'entendrez, ne m'a jamais laissé insensible, plein de mystique et d'une étrange magie. On s'y sent comme sous l'effet d'hallucinogènes que les plantes hostiles tout autour de nous embaument. Pour ce premier extrait, vous entendrez à la suite la musique du village Kokiri, puis celle des bois perdus, et enfin le temple de la forêt. Notez que la texture des sons est celle d'époque directement importée depuis la console par mes soins. La Nintendo 64 n'était pas encore en mesure de faire entendre des sons plus clairs et modernes. Allez, nous aussi plongeons dans le temps et revenons en 1998 sous la baguette de Koji Kondo avec ce grand classique.
Thank you.
Revenons un peu plus loin, jeu vidéo toujours, avec un jeu que certains considèrent, et que je considère même, comme une fable écologique. Secret of Mana, RPG de 1993, sorti sur la Super Nintendo, une console reine de l'ère 16 bits. Secret of Mana marquera l'histoire pour être l'un des meilleurs RPG jamais produits. Il me serait difficile de vous décrire dans le détail tout ce que ce jeu va apporter par la suite au genre des RPG, role-playing game. Pour les décennies à venir, système de magie, de combat pour un jeu d'action RPG, il trônera encore longtemps avant le début de la 3D. Le souvenir que ce jeu me laisse est cette merveilleuse boîte qui représentait une magnifique forêt et notamment un arbre du voyageur ou Ravenala madagascariensis sur sa pochette. On y voyait également un grand arbre magnifique et majestueux dont la cime n'était pas visible, l'arbre de Mana. Tout le ressort de l'histoire tient lieu d'ailleurs dans un combat entre nature et technologie et se sert sous quelques atours de légende arthurienne avec une épée au pied de ce grand arbre en majesté. Parlons de la musique. Ah, on la doit au génial Hiroki Kikuta et elle fut arrangée par Kenji Ito, deux légendes de la musique de jeux vidéo. Kikuta ne souhaitait pas que sa musique ne s'apparente ni à de la pop, ni à de la musique standard de jeux vidéo. Aussi travaillait-il seul, passant près de 24 heures par jour, il n'y en a pas plus, dans son bureau pour créer une bande-son qu'il voulait immersive et tridimensionnelle selon ses dires. Contraint lui aussi par les limitations mémoire de la console, on notera tout de même l'échantillonnage de sons de baleines et de quelques instruments réels, opération des plus périlleuses avec les freins techniques de la Super Nintendo. Hiroki Kikuta déclarera plus tard que cette bande originale sera la préférée de toute sa carrière. Plusieurs rééditions de cette bande originale ont vu le jour à travers les années qui ont suivi. Les deux extraits qui vont suivre sont les thèmes les plus officiels. Nous entendrons donc une version orchestrale du thème principal Fear of the Heavens, dont la particularité était de se développer en même temps que l'apparition du titre du jeu, une première pour l'époque. Et nous entendrons ensuite la musique de la forêt Into the Thick of It, qui pour les anciens comme moi ne peut que raviver la flamme d'une heureuse nostalgie où les premiers combats avaient lieu, promettant une aventure riche en rebondissements et dans une version remasterisée par le grand Hiroki Kikuta lui-même, alliant donc les sons d'époque et les sons réels, un pur plaisir. Arbre Mana, nous voilà! Thank you. un passage au film maintenant, avec un de mes films de chevet ou d'enfance, comme vous préférez. S'il est un héros qui considère la forêt comme son élément naturel, c'est naturellement Robin des Bois, le prince des voleurs et le seigneur de la forêt de Sherwood, d'où il prépare ses rapines pour défaire le cruel et ambitieux shérif de Nottingham qui convoite le trône tandis que Richard Cœur de Lion est retenu en Autriche au retour de la troisième croisade. J'avais 5 ans lorsque Robin des Bois, prince des voleurs, est sorti en 1991. Et je vous parle non pas de la version avec Errol Flynn dans son juste au corps tout vert, mais celle beaucoup plus hollywoodienne de Kevin Reynolds avec Kevin Costner dans le rôle du héros. Adaptation fortement réécrite cependant, qui fait tout de même apparaître Morgan Freeman, Alan Rickman et Sean Connery pour la plupart. La partition est confiée à Michael Kamen, à qui l'on doit les grands succès comme Brazil, Highlander, L'Arme Fatale, Die Hard ou encore X-Men. Je souligne tout autant qu'il a été composé également 11 ballets de sa part et qu'il a travaillé avec le groupe Metallica ou encore Aerosmith, ce qui en fait un compositeur absolument complet, au talent maintes fois récompensé. Il est, on peut le dire, un des artisans des grands films d'action des années 90 qui font encore toute la magie et la légende des vieux geeks de ma trempe, chaque fois qu'il me prend l'envie de m'écrier un peu sottement « Ah, c'était mieux avant !» Bref, nous allons entendre sa très juste écriture lors de la rencontre avec Petit Jean qui deviendra acolyte de notre Robin de Locksley avant sa transformation en Robin des Bois. Moment de l'intrigue, disais-je, où, dans les bois de Sherwood, il rencontre tous ceux qui fuient la tyrannie du shérif. Michael Kamen fait appel à quelques éléments médiévaux pour transcrire l'ambiance à la fois bon enfant et hardi qui règne dans cette forêt refuge. Un moment musical encore délicieux dans mon esprit que nous écoutons tout de suite.
Thank you.
RCN, les manettes à la baguette, Yoann Turpin.
Film toujours, avec une histoire que j'ai trouvée absolument merveilleuse et qui prend la forêt cette fois-ci non pas comme un refuge, mais comme une menace perpétuelle. Covington, village de 1897 avec une communauté autosuffisante, vit dans la terrifiante certitude que des créatures dangereuses peuplent les bois entourant le village. On les nomme ceux dont on ne parle pas. Personne n'ose s'aventurer sur le territoire de ces créatures et un accord tacite de non-violation des frontières a été, nous dit-on, passé. Évidemment, les protagonistes du film vont être amenés à outrepasser cet accord. Et c'est tout l'objet de ce délicieux film, Le Village, réalisé par M. Night Shyamalan, sorti en 2004, avec un casting absolument génial. Bryce Dallas Howard, Joaquin Phoenix, Adrian Brody, William Hurt, Sigourney Weaver, pour ne parler que d'eux. La musique du film n'est pas en reste puisque c'est le multi-récompensé James Newton Award qui s'en charge et par toutes les muses grecques, quelle musique ! Pour ce film, il va montrer tout son talent d'écriture afin de nous décrire tout à la fois un certain goût passéiste des vieilles histoires, une nostalgie triste où pointent cependant des espoirs de changement et enfin une menace contenue, sourde, dans les bois, quelque part, sans jamais la montrer vraiment. Et pour faire tout cela, il demandera alors à la jeune Hilary Hahn, enfin jeune à l'époque, en 2004, de participer. C'est une violoniste très reconnue aujourd'hui. Et c'est toute sa virtuosité que l'on entend tout au long du film et qui donne à cette bande originale une signature que l'on n'entendra plus guère ailleurs. Nous écoutons désormais le titre « What are you asking me ?» qui me laisse toujours les mêmes frissons mélangés. Thank you. film encore avec L'appel de la forêt, adapté du roman éponyme de Jack London, autour d'un chien et un héros vieillissant, ici incarné par Harrison Ford. Et si le film fut un échec commercial en partie dû à la pandémie de Covid-19, ce long métrage mêlant images réelles et captures de mouvements est cependant une belle réussite autour de thèmes comme l'amitié, le courage, le tout dans un décor sauvage, naturel, qui appelle au voyage. Sorti en 2020, c'est le génialissime John Powell qui va se charger d'illustrer cette histoire. Bon, nous l'avons déjà entendu aux manettes à la baguette, hein, mais je vous rappelle qu'il est le compositeur émérite, entre autres, de Chicken Run, Kung Fu Panda, L'Âge de Glace, Dragon, entre autres, une foultitude de grands succès. Ici, nous avons affaire à un traitement musical de la forêt que je qualifierais d'à la fois sauvage et très américain, représentant toute l'iconographie de l'Alaska et de ses parcours difficiles, forçant à fraterniser entre les hommes, leurs bêtes et la nature indomptable. Pour s'en convaincre, nous écoutons le titre Buck, c'est le chien du roman, et Thornton Biggs Adventure. Une série maintenant, tirée d'un manga qui donna aussi lieu à un film. Le piano dans la forêt, Piano no Mori, en japonais. Une histoire très touchante de Masayuki Kojima, sortie entre 2007 et 2009 du Japon à la France. Dans cette histoire, nous suivons Shuhei Amamiya, garçon de bonne famille, dont le rêve est de devenir pianiste à l'image de son père. Il rencontrera un ami plus modeste que lui après son déménagement, ainsi qu'un étrange piano cassé en plein milieu d'une forêt et qui constitue l'objet d'un test de courage parmi les élèves de sa nouvelle classe. De cette rencontre et de ce test démarre l'apprentissage du piano pour ces deux protagonistes, pourtant si différents, mais reliés par un seul atout, ils sont tous les deux talentueux. Piano no Mori se révèle être un manga particulièrement riche dans l'écriture de ses personnages et de leurs sentiments, se servant de la forêt pour manifester à la fois la peur, certes, mais aussi toute la magie et la fantaisie des enfants. C'est le très discret Keisuke Shinohara qui composera et interprétera le titre principal de cette série qui a marqué ma sensibilité. Nous l'écoutons maintenant, un moment que je vous garantis comme capable de suspendre la marche du monde, tout en douceur et en majesté. Ce qui doit arriver finit toujours par arriver. Je vais parler du Seigneur des Anneaux dans Les Manettes à la Baguette. Comment, vous parlez de forêt si je n'évoque pas la Lothlorien, domaine des elfes de la forêt, où siège Dame Galadriel dans le premier opus porté à l'écran par Peter Jackson en 2001. Je ne vais pas résumer toute l'histoire, c'est impossible qu'il pourrait en aussi peu de temps. En revanche, si je dois vous entretenir de quelque chose, c'est bien de la partition monumentale d'Howard Shore pour cette saga. Et pour parler de la forêt, des elfes, il se glisse à merveille dans un style mythique et mystérieux comme ces créatures à longues oreilles et longue vie. À ce moment où se brise la communauté de l'anneau, le magicien de l'équipe en la personne de Gandalf vient de tomber sous le joug du terrible Balrog. C'est donc une complainte que l'on entend à travers la canopée elfique de la Lothlorien. À ce sujet d'ailleurs, vous entendrez la voix éthérée d'Elizabeth Fraser pleurer la disparition du Mithrandir, Gandalf Maison Grise. Une forêt pour se recueillir, une forêt pour se reposer, une forêt une fois rassérénée pour repartir et dans la bataille triompher. Voici le titre Lothlorien, Lament for Gandalf, tiré du film Le Seigneur des Anneaux, La Communauté de l'Anneau. Pour terminer, nous reviendrons aux jeux vidéo avec un plaisir coupable, mais un vrai coup de cœur pour moi, puisque ce jeu figure dans mon top 3 personnel. Un RPG à mon sens incroyable qui m'a hanté, inspiré et envoûté depuis 2001, et j'en veux dire pour tout le reste de ma vie. Final Fantasy IX, sous la plume d'Hironobu Sakaguchi. Je n'ai pas taridé l'éloge au sujet du compositeur historique de la saga des Final Fantasy dans notre épisode sur les musiques de combat avec le très grand Nobuo Uematsu. Il faut dire qu'il est l'un des pères de la musique de jeux vidéo de manière planétaire et incontestée. Mais la raison pour laquelle je vais vous faire entendre cette musique, un peu datée par sa facture musicale, c'est parce que dans le 9e opus de Final Fantasy IX, la véritable aventure et prise en main démarre dans une forêt, étrange et dangereuse, mais aussi curieuse. Et j'ai toujours aimé démarrer un jeu par la forêt, car elle est, on l'a vu, à la fois un refuge ou un piège, maison ou donjon, bref, une aventure à elle seule. On écoute donc le titre « Danger in the Forest » par Nobuo Uematsu, tiré de la bande originale de Final Fantasy IX. Et voici qui clôt notre épisode Sylvestre, si l'on puis dire. Il m'a été inspiré par Sixtine Durandal, pardon, à qui j'envoie mon plus exclusif sentiment, et il était dédié à Sébastien alias Vorline. Quant à moi, il vous reste à vous conseiller, comme d'habitude, de jouer, d'écouter et de faire les deux en même temps.